du latin. Donc, on se dit, ah, il faudrait peut-être un diplôme de théologie pour poursuivre la prédication. Je vous rassure, non. C'est tout à fait abordable. Non pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que c'est la Bible qui le dit. La Bible est un livre qui est à notre portée. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des sages, c'est la parole des humbles. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Voilà. On voit ici le texte du credo sur lequel je vais insister aujourd'hui. Je vais juste rappeler les textes précédents sur lesquels vous avez déjà entendu des prédications et sur lesquels vous entendrez dans les prochaines semaines des prédications. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père, avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père et par qui tout a été fait, qui, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et il a été enseveli. Il est ressuscité des morts le troisième jour, d'après les Écritures. Il est monté aux cieux. Il s'est assis à la droite du Père. De là, il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint qui règne et donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui, avec le Père et avec le Fils, est adoré et glorifié. Nous croyons une seule Église sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Voici donc le texte du credo dans son intégralité. Et le credo, c'est intéressant parce que c'est le thème de notre année avec les aigles. Les aigles, c'est les collégiens, donc je suis leur enseignant tout au long de l'année. Et je les vois quelques-uns dans la salle. Donc, accrochez-vous. Mais je vous ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu, c'est facile, c'est abordable. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes encore jeune que vous ne pouvez pas comprendre. Et à ce sujet, il y a au fond des petites tablettes avec des feuilles pour prendre des notes. Donc si vous voulez prendre des notes, d'ailleurs même si vous êtes plus âgé, hein, vous avez le droit de prendre des feuilles pour prendre des notes. Ça vous aide à suivre les prédications, pas seulement d'ailleurs pour celles d'aujourd'hui, hein, c'est valable pour tous les dimanches. Donc les aigles, vous êtes avec moi? Vous suivez? Bon, super. Je vais essayer de ne pas vous perdre. Si je vous perds, vous me le dites. Et donc, le programme des aigles, comme je viens de vous le dire, c'est d'avoir un aperçu global de tout le plan de salut de Dieu pour nous les hommes, à partir du péché, hein, suite à la création, et à travers la loi de Moïse, imparfaite, mais Jésus, le sacrifice parfait, qui nous permet d'être sauvés parce que son sang a coulé sur la croix et il reviendra comme il nous est dit dans la Bible et en particulier dans l'Apocalypse. Donc c'est ça le programme que je traite avec les jeunes, les collégiens depuis le mois de septembre et ils ont eu déjà aussi une étude sur le credo dans son intégralité au mois de décembre. Voilà, donc c'est une petite révision pour vous, hein. J'espère que vous n'avez pas oublié, mais vous n'étiez peut-être pas non plus là tous présents. Très bien, alors le credo, allez, je vais vous le dire, c'est du latin, ça veut dire « je crois ». Ce n'est pas pour être pédant, mais ça évite que dans votre curiosité, vous vous perdiez. Donc le credo, ça veut dire « voilà ce que je crois ». Et depuis les débuts de l'Église, ce sujet a divisé les chrétiens. Et surtout les gens qui se disaient chrétiens, mais qui ne voulaient qu'une partie de la vérité de Jésus-Christ. Et donc le credo a divisé les premiers chrétiens, et notamment en réfléchissant sur le thème, sur la notion de la Trinité ou de triunité, à savoir Dieu, c'est d'abord et avant tout le Père, mais c'est aussi le Fils, et aujourd'hui le Saint-Esprit, qui est là aujourd'hui, comme Jésus nous l'a promis. Lorsqu'il est monté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc Dieu, c'est pas trois dieux différents, non. C'est un seul Dieu, mais en trois personnes. Bon, allez, c'est compliqué, mais on va y arriver. Donc ce sujet a beaucoup divisé l'Église, mais c'est pourquoi, en faisant ces prédications sur le credo, nous pouvons rappeler ce en quoi nous croyons. Donc Philippe, il y a quelques semaines, a prêché sur le Père. Il nous l'a présenté pour que nous puissions bien le comprendre, l'aimer, obéir à sa voix. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, c'est inutile, mais par contre, vous pouvez le réécouter sur le site de l'Église. La prédication est disponible. La semaine dernière, Laurence a parlé de Jésus-Christ, et comme je le disais tout à l'heure, il y a tellement de choses à dire sur le Fils qu'elle n'a pas pu finir son portrait, et donc moi je vais le compléter ce matin. Et dans quelques dimanches, nous aurons aussi la suite sur le Saint-Esprit, l'Église, le baptême. Donc, même si un dimanche vous n'êtes pas là, ce n'est pas grave, vous pouvez accéder à ces prédications sur le site de l'Église. Et n'oubliez pas, même en courant février, vous aurez la suite. Donc il faut persévérer pour ne pas rater une partie du message. Alors, voici maintenant le texte sur lequel je vais axer mon message. Il est affiché là-haut, c'est parfait. Jésus, il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert, il a été enseveli, il est ressuscité des morts. Le troisième jour, d'après les Écritures, il est monté aux cieux, il s'est assis à la droite du Père. De là, il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts. C'est tellement riche, parce qu'on a voulu, dans un texte assez court, mettre beaucoup de choses. Et donc, je pourrais pratiquement prendre mot à mot tous ces mots et faire une prédication quasiment sur chacun d'eux. Donc voilà, je vous rassure, ce n'est pas le but de ce matin. Donc ce matin, je vais axer mon message sur le jugement. Le jugement, ça peut faire peur, mais avant tout, le jugement, c'est aussi le salut, puisque celui qui est jugé et qui est acquitté, il gagne le salut en Jésus-Christ. Donc, je vais essayer de mettre l'accent sur ce point. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important, mais on a d'autres moments de prédication dans l'année où ces sujets sont aussi développés. Alors, le jugement, parce que, depuis Adam, le salaire du péché, c'est la mort. Mais par grâce, Christ a porté ce jugement à notre place sur la croix. Et comme je viens de vous le dire, nous sommes acquittés, nous ne sommes plus condamnés, nous sommes sauvés si nous avons foi en lui. C'est pourquoi il est important de connaître le credo pour savoir en quoi nous croyons. Alors, si j'avance un peu, j'appuie sur quel bouton ? C'est pas celui-là. Ouais, il faut que je vise. Tac, non. Si, ça y est. Allez. Bon, ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'imaginais. C'est pas grave. Alors, la première partie de ce que je vous ai lu, il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. on fait une référence historique, Ponce Pilate, qui était le gouverneur de Jérusalem, hein, qui représentait l'empereur romain. Et donc, Jésus crucifié, c'est une réalité historique. Il y a eu de nombreux témoins. La Bible nous en parle. Il y a aussi eu des témoins extra-bibliques. Et un film inspiré de la vie de Lee Strobel, Jésus l'enquête et a regardé avec intérêt. Lee est un journaliste athée qui a voulu ridiculiser les chrétiens en prouvant qu'il n'y a aucune réalité historique dans la vie et la mort de Jésus. Mais cet homme athée, après avoir exposé tous les arguments historiques qu'il a pu trouver, est devenu lui-même croyant. Voilà, Dieu l'a touché alors qu'il voulait ridiculiser les croyants. Donc sur la réalité historique, je ne vais pas rajouter grand-chose. Par contre, si vous avez l'occasion de voir ce film, je vous le recommande, c'est vraiment intéressant. Mais dans cette phrase que nous avons lue, il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, j'insiste sur les deux mots, pour nous. Oui, à notre place. C'est lui qui a été crucifié à notre place sur la croix. Donc, en récitant le credo, on se remet face à Dieu. On s'humilie. Dieu est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Et c'est pour ça que j'aime bien prendre la Sainte Cène et relire ces versets dans 1 Corinthiens. Voilà, là c'est bon maintenant. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. » Oui, Jésus est bien mort pour nous, pécheurs, pour nous sauver, pour faire alliance avec nous. Et, comme il le promet, un jour, il reviendra. Alors, soyons prêts. Il a souffert. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. Cette partie du credo est assez connue. Nous savons que Jésus est mort sur la croix, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité des morts le troisième jour. Nous prêchons assez souvent sur ce thème, en particulier à Pâques, au moment où nous nous souvenons de la mort de Jésus. Donc je ne vais pas entrer dans ce détail-là, mais n'oublions pas que c'est vraiment ça le message central de notre foi. La mort de Jésus sur la croix à notre place et sa victoire sur la mort par sa résurrection. J'aimerais aller plus loin. D'après les Écritures, le credo, ce n'est pas un texte sorti du chapeau, c'est sorti d'après les Écritures. Le credo est donc un texte de doctrine chrétienne écrit par les pères de l'Église entre le IIe et le IVe siècle. Et c'est une synthèse de ce en quoi nous croyons. Personnellement, en principe, j'aime mieux lire la Bible plutôt que des ouvrages de doctrine ou de théologie. Bon, pourtant, Corinne, tu nous en as proposé de très bons ce matin. Voilà, mais personnellement, j'aime la Bible parce que c'est la référence. Mais un jour, j'ai découvert dans ma bibliothèque le livre de Jules Marcel Nicole, Précis de doctrine chrétienne. Ça m'a interpellé. Je ne savais pas comment il était arrivé là. Mais du coup, je lui ai lancé un défi à ce livre. Je l'ai défié sur un des articles, un article qui fait polémique dans les églises évangéliques, les dons du Saint-Esprit et le parler en langue. Et en fait, tout ce que j'ai lu sur ce sujet m'a bluffé, car cela correspondait à ce que j'avais par moi-même lu dans la Bible et ce en quoi je croyais déjà. Il n'y avait rien de bizarre dans ce livre de théologie. Voilà. Donc ça m'a rassuré, la théologie, c'est aussi bon. Mais c'est là que j'ai compris la différence entre la Bible et la doctrine ou la théologie. Dans la Bible, Dieu nous parle et il nous enseigne, et ça je le crois. Mais les différents sujets sont dispersés dans les 66 livres de la Bible. Donc ce n'est pas toujours facile d'avoir un aperçu. Ce n'est pas facile de faire une étude ou d'avoir une synthèse parce qu'il faut aller piocher un texte par-ci, un par-là, pour avoir un aperçu global. Et c'est là que je comprends qu'en fait la doctrine est une science, comme toutes les autres sciences, c'est bon. Elle compile les textes de la Bible sur un sujet précis, ce qui me permet d'avoir un aperçu d'ensemble sur tous les textes relatifs à ce sujet. Donc c'est un outil. Cela me permet d'avoir en un clin d'œil tous les textes relatifs au sujet que je veux étudier. Donc la doctrine chrétienne, ce n'est pas un écrit qui vient s'ajouter ou qui vient compléter la Bible, mais c'est un outil qui nous aide pour l'étudier et mieux la comprendre dans son intégralité. Et voilà, donc les réformateurs, eux, ils proclamaient « sola scriptura », la Bible seule. Et donc nous pouvons être rassurés. Le credo ne rajoute pas quelque chose à la Bible, mais c'est simplement un outil pour mieux nous souvenir de l'essentiel de notre foi. Alors, néanmoins, je trouve bon, pour cette étude du credo, de revenir aux textes bibliques sur lesquels ils se fondent. Et ces tout derniers jours, je lisais l'Épître aux Hébreux, pas réputée pour être la plus simple de toutes les épîtres, mais néanmoins, cette année, quand je l'ai lue, j'ai été beaucoup éclairé. Voilà. Ce n'est pas la première fois que je la lisais, mais cette année, quand je l'ai lue, ça m'a particulièrement éclairé, notamment sur Jésus-Christ et son sacrifice parfait. Et au moment donc de faire la prédication sur le credo, et en particulier sur le texte qui correspond à Jésus-Christ, je me suis dit, ah mais l'Épître aux Hébreux, ça va être intéressant d'y chercher des références pour pouvoir justifier un petit peu ce que me dit le credo. Et c'est comme ça que je vais vous proposer plusieurs références tirées des Hébreux, notamment pour parler de cet extrait du credo. Jésus, il est monté aux cieux, il s'est assis à la droite du Père. Et donc dans Hébreux 1, verset 3, on peut lire « Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. » Il soutient toute chose par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Jésus a accompli la purification des péchés. Pour revenir à mon thème, cela veut dire qu'il nous sauve du jugement de Dieu. Nous pouvons le remercier. À présent, comme ce texte nous le dit, il est au ciel à la droite de Dieu. Et cette affirmation est particulièrement importante pour moi, pour nous, car il nous a fait une promesse. Lorsqu'il était sur terre, il a promis à ses disciples et à nous, par héritage, dirais-je, qu'il nous préparait une place dans son royaume. Et donc, c'est plus facile pour moi de lui faire confiance, sachant qu'il est déjà dans son royaume, il est déjà auprès du Père. Mais parfois, le doute nous envahit. Satan, le père du mensonge, arrive à nous perturber. Est-ce que Dieu existe vraiment? C'est vrai que quand on voit les philosophes modernes, ou du siècle des Lumières, enfin bref, ou tout simplement notre nation laïque, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que nous irons en enfer si nous ne croyons pas en lui? Je vous rassure, le doute est normal. Tout le monde passe par une période de doute. Je l'ai vécu moi-même, par moments. C'est pourquoi les disciples eux-mêmes, ils priaient Jésus et ils lui demandaient « Seigneur, augmente-nous la foi ». Et je vous encourage, prions comme les disciples « Seigneur, augmente-nous la foi ». Car le doute viendra toujours nous perturber. Mais si la foi augmente, alors la foi vaincra. Et c'est vrai que c'est le comble. hein, une prédication sur le credo, sur « je crois », mais je vous parle du doute. Mais oui, parce que c'est une réalité chrétienne, on ne doit pas mettre le doute sous le tapis et ne pas en parler, ce ne serait pas raisonnable. Donc le credo, ce texte, cet outil, nous rappelle ce en quoi nous croyons. Et donc, lorsque nous sommes pris par le doute, nous pouvons nous appuyer sur cet outil et aller de l'avant. Mais si nous prenons le credo simplement comme une récitation, un texte religieux qu'il est bon de prononcer une fois de temps en temps, mais alors là, je vous dis, ça n'a aucun effet. Il faut croire chacun de ces mots du credo pour que ça ait de l'effet. Ce n'est pas parce qu'on le récite tous les matins. Non, ça n'a aucun intérêt. Il faut que notre foi s'appuie sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre rocher. Et lorsque j'ai une expérience personnelle, une épreuve, une difficulté, lorsque je prie Dieu dans ce contexte et qu'il me répond, alors ma foi augmente. Parce que je vois une réponse que je touche moi-même du doigt. Ce n'est pas un truc que j'ai lu ou que quelqu'un d'autre m'a raconté. C'est ma vie, mon expérience qui me permet d'appuyer ma foi sur Jésus-Christ parce que je sais que tel jour, il a répondu à mon souci, à ma prière. Et c'est ça qui va m'aider à avoir la foi, à augmenter ma foi. Ce n'est pas de réciter le credo. C'est l'expérience personnelle que je vis dans la présence de Jésus qui va m'aider. Et en fait, ce n'est pas la foi dans mes œuvres qui compte, c'est la foi dans les œuvres de Jésus-Christ qui a tout accompli sur la croix. Voilà, tout est accompli, moi je n'ai même plus rien à faire, sauf d'accepter son amour et de croire en son salut. Le credo nous dit par la suite, de là, hein, il est assis au ciel, de là, il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts. Voilà, juger, c'est le thème de ma prédication, je vous le rappelle. Et dans Hébreu, quelques versets qui nous éclairent un petit peu sur qu'est-ce que le jugement. Dieu qui est amour, mais comment peut-il nous juger ? On s'attendrait à ce qu'il passe l'éponge. Alors, comprenons mieux qu'est-ce que le jugement. Hébreux 2, verset 3 nous dit « Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut ? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour tous. » Le châtiment et à côté, la négligence. Si nous négligeons d'écouter Dieu, si nous n'écoutons pas sa voix, nous n'échapperons pas au jugement. Hébreux 9, 27. Comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. De même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. J'avoue que là, je vais même pas commenter, c'est clair. Après la mort, c'est le jugement. Mais Christ, pas un seul sacrifice, un sacrifice parfait. C'est pour ça que je vous dis, l'Épître aux Hébreux nous présente Jésus-Christ comme le sacrifice parfait. Il n'y a pas un mieux. Eh bien, si je le confesse, je suis sûr d'être sauvé. Hébreux 10, 26 nous dit, « En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. » La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié si deux ou trois témoins déposent contre lui. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'Alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore ? Nous connaissons bien celui qui a déclaré « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Comme je le disais, Dieu est amour. Il veut que tous soient sauvés. Mais si je refuse, si vous refusez, je peux vous dire qu'il est terrible de tomber entre ses mains. Aujourd'hui, Dieu nous aime, nous appelle pour accepter le pardon par le sang de Jésus, recevoir le salut éternel. Demain viendra le jugement. Ce sera terrible. Donc, ce n'est pas pour vous faire peur. Il y a eu trop de prédications pendant l'Inquisition. On disait aux gens, mais attention, l'enfer, donnez de l'argent à l'Église, sinon vous irez en enfer. Là, il n'est pas question d'argent, puisque le salut, c'est gratuit. Mais c'est une réalité. Nous devons parler de l'enfer. Nous devons parler du jugement. Nous connaissons tous, en tout cas, nous sommes nombreux à bien connaître Jean 3, verset 16, mais j'aime bien lire aussi les deux versets qui suivent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Alors, n'ayons pas peur, le jugement viendra, c'est sûr, mais si nous sommes acquittés suite à ce jugement, nous serons sauvés, nous ne serons pas condamnés. En Jésus, nous ne sommes pas condamnés. Je reviens à Hébreux. Là, c'est au chapitre 10, verset 37, qui nous dit « Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, dit Dieu. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. » C'est vrai qu'il y a des textes hébreux qui sont parfois compliqués, mais il y en a qui sont tellement simples. Je ne vais même pas rajouter quelque chose. Et si je reste donc sur ce thème du jugement, voici ce que Hébreux 12, 25 nous dit. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Alors celui qui vous parle, bien sûr, aujourd'hui c'est moi, mais pensez à Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au jugement, au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux ? Oui, c'est une certitude, Jésus revient. C'est annoncé dans la Bible, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Jésus est venu une première fois pour apporter le salut, mais il reviendra pour juger le monde. Ne doutons pas de cela. La justice de Dieu exige que le salaire du péché soit la mort. C'est la justice de Dieu qui l'exige. Et c'est seulement parce que Jésus a porté ce châtiment à notre place que nous sommes sauvés. N'attendons donc pas demain pour nous mettre en règle. Demain, c'est déjà le jour du jugement, alors qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Lorsque j'étais jeune, j'allais à l'école du dimanche et à l'église avec mes parents. À l'âge de 15 ans, je suis parti dans une autre ville faire mes études dans un internat. Et pendant quelques mois, je n'ai plus mis les pieds à l'église. À la fin de l'année, au mois de juin, je rentrais en train chez mes parents pour les grandes vacances. Et en regardant par la fenêtre, Je voyais le paysage défiler et je me disais, quand même, si le train déraille là maintenant, et si je meurs, ben, je vais en enfer. Parce que je savais en moi que je n'avais pas encore fait la démarche de donner mon cœur à Jésus. Mais cela ne m'a pas plus préoccupé. Cela m'a laissé indifférent. Je n'avais pas crainte du Dieu qui juge, mais j'avais tort. Un mois plus tard, comme quoi Dieu est bon, il est patient envers nous. Un mois plus tard, je participais à un camp de jeunes à la montagne. Un soir, au moment de la veillée, le pasteur qui animait le camp, il me dit « Hervé, tu vas prier ». Là, je me dis « Mince, il est quand même bizarre ce pasteur, je ne suis pas chrétien » et il me dit de prier. Voilà, donc j'étais en train de dire non et puis finalement, dans ma tête, ça a tourné à toute vitesse. Et je me suis dit « Mais ce n'est pas le pasteur qui me demande de prier, c'est Jésus qui est derrière le pasteur qui me dit par cette voix « Prie, prie Jésus ». Et cela m'a touché et j'ai obéi. J'ai réalisé que c'est Jésus lui-même qui m'appelait et qui me demandait de prier. J'ai obéi, j'ai prié, et c'est à partir de ce moment-là que je peux vraiment dire « Oui, je crois en Jésus, mon Sauveur ». Ça ne veut pas dire que je suis devenu parfait, ça vous me connaissez, je suis loin d'être parfait. Néanmoins, je peux dire « Je suis sauvé en Jésus parce que je lui ai obéi ». Et c'est ça, Dieu est patient, mais tôt ou tard, viendra le jugement. Le credo nous dit encore, son règne n'aura pas de fin. Dans Hébreux 11, verset 16, nous lisons, « C'est une meilleure patrie qu'il désire, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. » Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. C'est là qu'on peut être un peu perturbé parce que tous les héros de la foi, dont les noms sont cités dans le chapitre 11 de Hébreux, aucun d'eux n'a reçu ce que Dieu lui avait promis. Alors, c'est frustrant. Pourquoi ? Pourquoi suivre Dieu ? À quoi bon ? Mais en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur. Et Jésus nous affirme, le royaume de Dieu s'est approché, il nous invite à y entrer et il nous invite dans la Jérusalem céleste, là où il nous a préparé une place. Alors, ne soyons pas attachés aux choses terrestres, mais vivons dans la présence de Dieu. C'est cela, être disciple de Jésus, vivre dans sa présence. Mais je vous rassure, nous pouvons aussi prier pour avoir des biens matériels, un bon travail, une maison, une famille, une bonne santé. Et Dieu, dans sa grâce, il sait que nous en avons besoin. Et il nous accorde tout cela. Mais c'est en plus, comme dit un autre verset bien connu, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout cela vous est donné par la suite. » Cherchons donc cette chose qui est meilleure et ne nous laissons pas aveugler. La meilleure part, c'est d'être au pied de Jésus, écouter son enseignement, le suivre, obéir et mettre sa parole en pratique et ainsi entrer dans son royaume. Alors, pour conclure, le credo, c'est bon les jeunes ? Vous avez suivi ? Ouais, c'est vrai que c'est un texte un peu compliqué, mais bon, voilà, on arrive quand même au bout. Le credo, c'est donc un texte extra-biblique que beaucoup remettent en question parce que ce n'est pas la Bible. Mais je vous ai expliqué, c'est un bon outil qui nous aide à mieux retenir ce que Dieu veut nous expliquer. Dieu nous aide à nous souvenir de toutes les vérités que la Bible nous enseigne. Alors je vais vous laisser sur un dernier verset, puisque justement le credo ce n'est pas la Bible, donc moi je m'appuie plutôt sur la Bible, et dans Hébreux 3, verset 7, ce verset qui nous dit, c'est pourquoi. Prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Et qui plus est, au verset 15, la Bible répète « Aussi longtemps qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait les autres. » Et la Bible aime répéter, Hébreux 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, qu'il appelle « Aujourd'hui », lorsqu'il dit dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » Voyez, ce n'est pas moi qui radote, qui me répète. Non, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui vous répète trois fois. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Quand la Bible se répète, ce n'est pas une faute, ce n'est pas un hasard. Non, c'est important. La Bible se répète parce que le message qu'elle donne est important. Alors n'oubliez pas, il reste un petit peu de temps, un tout petit peu de temps. N'abusez pas de la patience de Dieu. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Alain Auderset, un humoriste suisse, dessinateur, était en vacances chez ses parents en Espagne. Et c'était le moment où il devait rentrer. Voilà ce qu'il nous dit. « Ma maman, qui a toujours été très prévenante, et elle me connaît, me demande « Est-ce qu'on ne pourrait pas vérifier ton billet d'avion ?» Je sais pertinemment que ça ne sert à rien d'être pressé. C'est un Suisse qui parle. Mais bon, pour la rassurer, je vérifie. Je vérifie aussitôt, et là, surprise, je me suis complètement fourvoyé. L'avion décolle demain et non pas lundi. Quoique on est dimanche, donc demain c'est lundi, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, notre brave Alain, il était sûr que son avion, il avait encore le temps, mais heureusement que sa maman lui a dit « Attention, vérifie quand même ». Alors moi, je vous encourage aujourd'hui. Avez-vous vérifié votre billet d'avion, pardon, votre billet pour le royaume des cieux ? Ce n'est pas demain qu'il faut vous imaginer que vous partirez. La Bible est claire, c'est aujourd'hui le jour du salut. Voilà, Dieu nous aime, il vous aime, et il nous presse, il vous presse. En fait, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous presse, parce que c'est important. Il veut que vous soyez sauvés, il est plein d'amour pour nous. Il veut que vous échappiez au jugement, que moi j'échappe au jugement. Mais si j'attends demain, alors aujourd'hui, dites-lui, oui, Jésus, je crois en toi. Amen.
Merci Hervé pour ce message et ta conviction.